Et là, je vous avertis, c'est un peu complexe parce qu'il y a question de première dose, de deuxième dose, de comités nationaux qui sont au fédéral, de comités d'experts qui sont au provincial. Il y a, je ne veux pas dire que c'est une chicane provinciale fédérale, mais disons que les experts du Québec et d'Ottawa ne voient pas les choses de la même façon quant à la période maximale, la période, le nombre de jours maximal où on peut donner la deuxième dose. On va en parler immédiatement avec le Dr Richard Massé, qui est conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique. Dr Massé, bonjour.
Bonjour.
Donc, d'abord, là, première question très simple. Là. Qu'est-ce que les fabricants, les pharmaceutiques disent sur le nombre de jours qu'on doit observer entre les deux doses?
Bon, on parle du vaccin Pfizer. La recommandation, c'est 21 jours après la première dose de donner une deuxième dose. Dans les discussions, c'est 28 jours pour l'autre vaccin qui s'appelle Moderna, de la compagnie Moderna. Et puis, dans les discussions avec la compagnie, les gens disent, ben, on a des données qui permettent de dire que peut-être que c'est plus long que ça, peut-être que ça pourrait être acceptable jusqu'à 42 jours. Donc, la compagnie est prête à faire un assouplissement pour doubler la période entre la première et la deuxième dose. Ça, c'est sa position officielle.
OK. Là, il y a un comité d'experts au Québec qui a recommandé d'étirer la période entre les deux doses parce que ça nous permettrait de donner une première dose à plus de Québécois. Au Québec, là, on pourrait s'étirer jusqu'à combien de jours pour Pfizer d'abord?
Bon, mais peut-être que je vais commencer par dire qu'on est d'accord avec la recommandation et de la compagnie qu'on peut aller jusqu'à 42 jours et au niveau canadien que 42 jours. C'est là où est-ce qu'on a des données probantes qui ont été générées par la compagnie, par les différentes études.
Oui.
Ceci dit, nous, on a recommandé d'aller, nous étant le comité d'immunisation du Québec, après évaluation du produit, puis des connaissances des vaccins que les gens ont, de qu'on pouvait aller jusqu'à 12 semaines, 90 jours, donc doubler à peu près ce temps-là. Pas parce qu'on veut pas le respecter intrinsèquement, parce qu'on pense qu'on va revenir à cet intervalle-là, mais pour une courte période compte tenu de la situation épidémiologique. Et c'est ça qu'on a fait valoir à Santé Canada, puis qu'on a discuté avec les autres responsables de la santé publique à travers le Canada en disant « La situation épidémiologique au Québec est telle que pour une période courte et pour une situation exceptionnelle, on peut à ce moment-là retarder la deuxième dose parce que la connaissance qu'on a des vaccins, c'est que l'immunité, ça n'arrête pas tout d'un coup. Ça continue dans le temps.
OK, mais Dr Massé, vous le savez, là, des fois la science est claire, des fois la science offre pas des réponses claires. Dans ce cas-ci, là, vous, les experts au Québec, disent qu'on peut s'étirer jusqu'à 90 jours pour la période entre les deux doses. Parfait. Fédéral a un comité d'experts qui dit que lui, c'est 42 jours parce qu'au-delà de ça, c'est qu'on ne le sait pas si c'est encore efficace. Êtes-vous d'accord avec cet énoncé-là?
C'est-à-dire qu'on n'a pas de données sur ce vaccin-là, parce que c'est un nouveau vaccin, mais on a des données sur les autres vaccins. Puis les autres vaccins nous montrent, comme je vous le disais, que l'immunité, ça l'arrête pas tout d'un coup, puis que si c'est bon à 42 jours, c'est probablement encore bon à 43, puis à 45, puis probablement à 90. Mais ça, il faut le prouver. Donc, la chose qu'on
mais s'est c'est pas
engagé...
Prouvé.
Juste une seconde.
Mais c'est pas prouvé.
On s'est engagé d'évaluer, de continuer d'évaluer l'efficacité des vaccins. Et si on se rend compte qu'il y a des groupes dans la population qui sont moins bien protégés, si on se rend compte qu'il y a une diminution, on va donner tout de suite la deuxième dose. Mais ça nous permet de vacciner 500 000 personnes plus rapidement. Ça fait une très, très grosse différence. Pour toujours balancer les impacts avec les bénéfices. Et là, il y a un bénéfice très, très important. Le risque, il est faible. Il est vraiment faible. Fait qu'on va le monitorer, on va corriger, mais puis dès qu'on va être capable, on va revenir à 42 jours. Mais pour l'instant, on pense qu'il y a vraiment un avantage pour la santé de la population de faire cette chose-là, mais de suivre puis d'évaluer la situation.
OK, comprenez-moi bien. Là, moi, je veux que tous les Québécois soient vaccinés demain matin. Là, on se comprend, OK? Mais je peux pas m'empêcher de voir que le comité du fédéral dit avec prudence, écoutez, au-delà de 42 jours d'attente pour la deuxième dose, on ne sait pas si le vaccin reste efficace. Est-ce qu'il est possible qu'au-delà de 42 jours, bien, les Québécois qui vont être vaccinés puis qui vont attendre, à un moment donné, le vaccin ne sera plus aussi efficace?
Bien, il va peut-être baisser en immunité, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera plus... Il ne sera pas inefficace d'un coup.
Oui.
S'il est inefficace, on va le voir, mais s'il ne sera pas au 43e jour plus efficace, il va continuer d'être efficace. On utilise les vaccins depuis des années et des années. L'immunité, ça ne s'arrête pas comme ça. Donc, oui, la deuxième dose est importante et on s'est engagé de la donner pour allonger la durée d'efficacité du vaccin. C'est important. Mais entre le 42 jours puis le 90 jours, la période est très courte. Puis on le fait pour nous une période seulement pendant le temps qu'on va rejoindre les gens qui sont les plus vulnérables, les gens qui sont hospitalisés, oui. Les gens qui décèdent.
OK, je veux juste qu'on parle d'une chose avant de vous laisser aller, Dr Massé. Il y a eu cette histoire de gens en CHSLD qui ont reçu une première dose et là, on a su qu'ils avaient été infectés par le coronavirus. La nouvelle était, disons, c'était inquiétant. Après ça, en y repensant, est-ce qu'on sait si ces gens-là qui ont contracté le coronavirus ont eu des complications qui peuvent menacer leur vie?
Je suis pas au courant qu'il y a eu. Bien, il y a eu des gens qui ont eu des conséquences à ça. Il y a eu une personne qui est décédée, mais pas suite à la vaccination. Là. C'est des gens très malades. Donc, complications reliées au vaccin, pas que je sache, mais des gens qui ont été très malades de la maladie, oui, il y en a eu, effectivement. Mais on parle des gens en CHSLD, où est-ce que déjà leur état de santé est très, très fragile, c'est pour ça qu'on les vaccine. Donc, ces gens-là, effectivement, ils sont s'ils attrapent la maladie, ils peuvent avoir des conséquences. On est en train d'évaluer cette chose-là pour voir, effectivement, c'est quoi l'efficacité des vaccins chez les gens qui sont très âgés, les gens qui sont vraiment très fragiles. On est en train de le voir. Il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature pour les gens qui sont au-dessus de 80 ans, puis tout le monde à travers la planète sont en train de regarder cette chose-là, tout comme on a très peu de données pour les gens plus jeunes, les gens en bas de 16 ans. Donc, on génère cette information-là, puis soyez sûrs qu'on va réagir tout de suite si on se rend compte qu'il y a une diminution d'efficacité, puis que les gens âgés ont besoin d'une deuxième dose plus rapidement. On va ajuster en conséquence.
Merci beaucoup, Dr Massé.
Ça m'a fait plaisir, M. Lagacé.
Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique. Je me tourne vers Dr Caroline Couache. Vous la connaissez. On l'a eu souvent à ce micro, intervient souvent dans les médias pour expliquer la science. Elle est pédiatre, elle est microbiologiste infectiologue et aussi, dans ses temps libres, présidente du Comité consultatif national de l'immunisation. C'est un comité du gouvernement fédéral. Dr Couache, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Bon, vous avez entendu Dr Massé. Vous êtes médecin au Québec, mais là, vous avez des fonctions pour ce comité consultatif qui est au fédéral. Selon vous, là, on ne devrait pas attendre plus de 42 jours entre les deux doses. Pourquoi?
En fait, ce que le comité fédéral a regardé, c'était, comme Dr Massé l'a dit, là, les données qui avaient été générées par les études de phase 3, où dans ces deux études-là, Moderna et Pfizer, les participants recevaient leur dose entre 21 et 42 jours. Donc, ayant des données jusqu'à 42 jours, on s'est dit de façon prudente, pour essayer de justement vacciner le plus de gens possible, utilisons toutes les premières doses, n'en gardons pas dans le congélateur pour en donner à 21 jours plus tard, mais préférablement, donnons la deuxième dose dans les 42 jours parce que c'est ce qu'on a comme données. Docteur Massé a raison, il n'y a rien qui nous dit qu'au 43e jour, il n'y aura plus d'efficacité et je pense que ce qu'il faut à ce moment-là, c'est de colliger les données et d'évaluer l'efficacité vaccinale au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et de réagir rapidement. Maintenant, la raison pour laquelle on veut vacciner plus de gens tout de suite, c'est que c'est maintenant que la COVID se transmet. Potentiellement, dans 6 ou 8 semaines, quand il y aura moins, même si on perdait un peu d'efficacité, j'ose espérer que rendu là, compte tenu de la saisonnalité, des mesures qui ont été mises en place aussi et du début de la vaccination, on va avoir moins de transmission communautaire. Donc, s'il y avait une perte d'efficacité graduelle, elle serait compensée par une diminution de la transmission. Ça fait que si, même si tu as un peu moins de protection, si tu es moins exposé au coronavirus, ça ne devrait pas trop paraître non plus. Donc, c'est le plus important, là, c'est le timing où on peut donner les premières doses de vaccin. Et donc, je comprends que pour le Québec, c'est hyper important de vacciner rapidement parce qu'on est effectivement dans une phase de transmission épouvantable. Je suis contente de savoir que dès qu'ils le pourront, ils vont rapprocher la deuxième dose à 42 jours. Mais je pense qu'au départ, il y a probablement quelque chose à gagner à vacciner le plus de gens possible.
Donc, vous comprenez, là, même si vous avez des fonctions avec un comité fédéral là, qui recommande 42 jours maximum entre les deux doses, Dr Couache, vous comprenez le Québec d'étirer potentiellement jusqu'à 90 jours.
Puis, même quand vous lisez notre énoncé au fédéral, ce qui est écrit, c'est que les provinces peuvent décider, selon leur situation épidémiologique, selon différents critères, incluant l'équité, l'éthique, l'acceptabilité, pourraient décider d'aller au-delà du 42 jours. Mais en autant qu'il y ait une surveillance qui soit faite, on a dit de préférence dans les 42 jours, ça ne veut pas dire au 43e jour, vous êtes hors norme. On donnait un barème, là, un schème pour que les provinces puissent se positionner.
OK. Je veux vous amener sur un autre terrain. On a appris là, que des gens qui ont été vaccinés, qui ont reçu une première dose, avaient été infectés par le coronavirus. La première personne vaccinée au Canada a contracté le virus. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter ici ou c'est dans l'ordre des choses?
Bien, dépendamment, encore une fois, du moment où l'infection est survenue, il faut quand même comprendre que quand on est vacciné, ça prend au moins 2 semaines, un bon 12 à 14 jours pour que notre système produise des anticorps puis qu'on soit protégé. Donc, une infection qui surviendrait dans les 2 premières semaines, c'est soit que la personne était déjà infectée puis est en incubation quand elle a été vaccinée, mm-hmm. ou elle l'a attrapée après le vaccin, mais le vaccin n'avait pas encore eu le temps de faire ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore, on n'avait pas encore développé nos anticorps. Après ça, il faut réaliser que ce vaccin-là n'est pas efficace à 100%. On a une moyenne autour de 90% dans les 2 études après 2 semaines suivant la première dose de vaccin. Mais encore une fois, je ne sais pas qui est cette première personne-là au Canada, là, mais si c'est une personne très âgée avec beaucoup de facteurs de risque, c'est possible que l'efficacité pour elle ait été un peu moins élevée parce qu'on sait que plus on vieillit, notre système immunitaire est moins réactif à la présentation de nouveaux antigènes. Donc, c'est possible que pour cette personne-là, l'efficacité aurait été, je ne sais pas moi, de 70%. Je dis n'importe quoi, c'est un chiffre complètement fictif. Donc, à 70%, il y a encore 30% de chances qu'elle puisse le développer, qu'elle puisse attraper l'infection. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait eu quand même une protection partielle et que l'infection soit ne se soit pas soldée par des complications. Alors, encore une fois, là, j'ai pas les données. Je pense que les cas où il y a, dans les CHSLD au Québec où il y a eu des personnes vaccinées qui ont développé la COVID, on est en train de colliger ces données-là. Il va falloir que la province les analyse. Et quand on en saura un peu plus, on pourra se prononcer. Mais pour l'instant, je sais même pas quand est-ce que les infections sont survenues par rapport à la vaccination.
Juste pour être clair, les vaccins qui sont sur le marché, qui sont en train d'être distribués aux gens présentement, Dr Quash, là, est-ce qu'ils nous protègent de contracter le coronavirus ou de développer les complications liées au coronavirus?
Ce qu'on sait, en fonction des études de phase 3 de Pfizer et de Moderna, c'est que ces vaccins-là préviennent les infections symptomatiques. Ça veut dire que ça prévient le mal de gorge, nez qui coule, tout, et les complications, mais il faut qu'il y ait des symptômes. Ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est si ces vaccins-là préviennent les infections asymptomatiques, où on pourrait quand même attraper la maladie, pas avoir de symptômes, mais quand même excréter le virus et potentiellement contaminer les gens autour de nous qui ne sont pas encore protégés. C'est donc pour ça que même si on est vacciné, on demande aux gens de continuer à porter le masque et à exercer la distanciation physique jusqu'à temps qu'on soit suffisamment vacciné à la grandeur du Québec pour pouvoir savoir que les gens à plus haut risque, ben ils sont protégés personnellement aussi.
OK. On vous connaît comme médecin pédiatre aussi à Sainte-Justine, surtout, je devrais dire. Et là, il y a l'hôpital Sainte-Justine aujourd'hui a envoyé un communiqué de presse, Dr Quash, pour dire, écoutez, on lance un appel aux parents pour les rassurer et les inviter à ne pas hésiter à se présenter à l'urgence en cas de problème de santé. Pourquoi on a senti le besoin de dire ça aux parents?
Bien, ce que nos urgentologues nous disaient hier matin, c'est que à cause du couvre-feu, les parents parfois attendaient toute la nuit avant de se présenter à l'urgence, puis rendu au matin, ça faisait genre 6 heures que l'enfant souffrait parce qu'il s'était cassé le bras, par exemple. Donc, ce qu'on dit, c'est que le couvre-feu est là, oui, mais si vous avez besoin d'aller à l'urgence parce que votre enfant est malade, attendez pas 12 heures de plus, là. Allez-y quand c'est nécessaire parce que parfois, il peut être un peu trop tard. Donc, c'est vraiment ça. C'est pour cette raison-là que le communiqué de presse a été émis.
Merci de nous avoir parlé aujourd'hui, Dr Quash.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.